Ce jour dédié pour l'alia rapide et réussie de Shlomo Ben Vera, Bezrat Hashem. Réussite au niveau matériel et surtout spirituel. Dans le cadre de notre rubrique, les joyeux parachats, parachat Vaishlach, je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir le cours Germania et Jacob et les nazis, c'est les plus belles choses que j'ai fait dans ma vie au niveau thoraïque. Et nous, on va parler un peu de Chidushim, d'explications un peu plus classiques. Donc, Jacob envoie des anges vers son frère Esav, les anges reviennent et lui disent il vient avec 400 hommes pour te tuer. Jacob a très peur et il fait trois choses. Il prie, il partage son. Avant de partager, il envoie des bêtes, en tout 580 bêtes, comme cadeau à Esav pour l'amadouer. Et il partage son camp en deux, disant si. Et ça vient pour anéantir un des camps, le deuxième camp sera sauvé. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Normalement, commence à agir. Déjà, on voit les béliers, commence à partager le camp. Première chose qu'il fait, il prie. Et ça, c'est un très grand enseignement pour nous. On le voit aussi dans la même. On a la même. À peu près la même chose qui se passe aussi à Pourim. On parle de retour de Yaakov ou du peuple d'Israël sur sa terre. Pourim, c'est l'époque où, qui a précédé juste le retour du peuple d'Israël sur la terre d'Israël pour la construction du deuxième temple. Et là aussi, il y a une tentative de Haman, le descendant de Esav, à Agagi, donc Agag, c'est le roi de Amalek, Amalek c'est le petit-fils de Esav, donc la direction, d'aller anéantir le peuple juif. Et bien sûr aussi la Shoah, comme j'explique bien dans le cours Germania. Mordechai apprend que Haman veut anéantir le peuple juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il va proche de l'entrée du palais, déchire ses habits et met un sac de jute sur lui, c'est un signe de deuil comme ça, et il crie, il prie, il se met à prier, il met des sons sur lui, etc. Esther, elle envoie Hatach, c'est son commis, d'accord, un de ses messagers, lui dire, on n'a pas le droit, c'est interdit d'être près de la porte du roi, du palais, comme ça, avec un habit de sac. Il lui dit, va dire à Esther qu'il y a un décret d'anéantissement du peuple juif, qu'elle rentre chez le roi pour annuler le décret. Pourquoi il envoie un messager? Qu'il a eu lui-même. Et on ne peut pas rentrer dans le palais en sac de jute. Ça ne va pas, tu vas te faire ratatiner. Alors je ne comprends pas très bien la logique de Mordechai. Tu veux que Esther aille voir le roi? Tu sais bien que si tu vas lui dire toi-même, ce sera plus d'effet que si tu vas envoyer le commis, d'accord? Hatach qui s'appelait. Alors, garde tes habits. Dans 5 minutes, tu les déchires, tu mets le juif. Maintenant, tu rentres vite chez Esther, Esther va voir le roi, tac, tu sors dehors, tu déchires les habits, tu mets le juif et les cendres. Pourquoi il fait à l'envers? Réponse, d'abord prière. D'abord prière. Messieurs, nous sommes à la fin de l'histoire. Très prochainement, on pense qu'il y aura un grand boom. J'espère un boom light, mais on ne sait pas. Une chose est claire, on a trois grands mérites. Le chesed qu'on peut faire, les bonnes actions qu'on fait, l'étude de Torah et la prière. En chesed, on est nul. On peut le reconnaître. Allez, 10% de ce qu'on pourrait être. Étude, on est nul. 10% de ce qu'on pourrait être. Mais la prière, c'est facile. C'est facile. C'est écrit, pourquoi est-ce que Hachem, il autorise et ça va venir 400 hommes pour tuer Yaakov? C'est marqué parce que Yaakov voulait que Yaakov prie. Hachem voulait que Yaakov prie. Pourquoi est-ce qu'il fait poursuivre le peuple d'Israël avec Pharaon? C'est écrit, Pharaon écrive. Pharaon écrive, écrive, ça veut dire s'est rapproché. Mais c'est marqué, écrive, c'est un passif. Il a fait se rapprocher le peuple d'Israël de Dieu. Ils ont tous hurlé. Ils ont été horrorisés, Vaïtsakou et Hachem, ils ont crié à Hachem. Et qu'est-ce que Hachem il a fait à ce moment-là? C'est écrit dans le livre, dans les écrits de Chazal, les sages d'Israël, il a dit, ah, combien c'est bon ta prière, vas-y, continue. On pourrait dire que c'est un sadique, rassé shalom, d'accord? Pas avec un sadique, avec un sadique, d'accord? Il faut comprendre que la prière, c'est un pilier du monde. C'est énorme. Toutes les prières que nous faisons, les vraies prières, elles vont où? Elles vont sur une couronne sur la tête d'Hachem. Une couronne. Maintenant, je parle de prière, enfin pas de récitation. le Rav, il y avait un très très grand de Boursa, Rav Eliou Lapian, très connu. Il y avait un très très grand tzaddik aussi énorme, Rav Haskalev Inshan, qui était entre autres, il a été le mashgiach de Ponovitch après de Yeshivat Mir. Tzaddik énorme, c'est lui qui est l'épopée de la Yeshiva Mir qui quitte l'Europe pour aller en Chine, après au Japon, etc. C'est lui qui a dirigé la Yeshiva à cette époque-là, un grand grand tzaddik. Et un jour, le Rav Lapian vient à Ponovitch rencontrer le Rav Haskel Levinstein. Ils se connaissent bien. Bon, ils discutent, etc., etc. Il y a même des photos, on les voit sur le balcon de la Yeshiva. Et après, le Rav, il veut partir, Rav Lapian. Alors, le Haskel Levinstein lui dit, écoute, t'es là, je vais faire un cours de moussar. Il accepte. Il fait un cours de moussar et je suis à Ponovitch. Qu'est-ce qu'il leur raconte? Il leur dit, vous savez, dans le temps en Europe, une chose qui est extrêmement courante, c'était les alilat d'âme, comment traduire ça en français, accusation de meurtre pour crime rituel. Les goyim disaient qu'il fallait mettre dans les matzot du sang de goy. Donc, les goyim allaient eux-mêmes tuer un goy, le mettaient dans le domaine des juifs, ou même pas, et disaient c'est les juifs qui ont fait ça, et pogrom terrible. Il y a même eu un au 19e siècle, au 20e siècle, à Damas, d'accord ? Le Sir Montefiore, le baron de Rothschild, a dû intervenir pour venir, ça a réussi à se calmer. C'est la dernière fois où il y a eu ça durant l'histoire. Mais durant les derniers siècles en Europe, c'était terrible, 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 terrible. Il y a eu un cas pareil, découvert dans le jardin d'un juif, un corps goy mort juste avant Pessah. Toute la vie se met à hurler, crime rituel, pogrom, on va tous les tuer, etc. Le gouverneur a dit, allez, qui dit que c'est juif qui l'ont tué? Ça, c'est le Rav Lapian qui raconte ça aux élèves de Ponovitch. Hein. Et les goyim, c'est évident, on l'a trouvé dans le jardin du juif. Qui a pu le tuer si ce n'est pas le juif? C'est certainement pour leur matzot, là. Ils ont besoin du sang de goy. Le gouverneur, qui était un bon gouverneur, a dit, ouais, non, mais attention, dans le jardin, il a pu venir de l'extérieur. Il est venu de l'extérieur et, hein, et on l'a mis là-bas. Ou bien, il vient de l'intérieur. Mais comment on peut savoir? Ben, il y a un moyen. On va amener un chien qui était élevé pour ça, un chien de flic, d'accord? Il va respirer. Si le chien, après qu'il a senti l'odeur du mort, il va à l'extérieur, c'est-à-dire que le mort est venu de l'extérieur. Donc, ce n'est pas les juifs. S'il vient de l'intérieur de la maison, on tue toute la famille et on met dehors tous les juifs avec un beau pogrom en plus. Bon, ils ont accepté. On amène le chien de flic, il y a là-bas la police. Il y a évidemment les curés, il y a les rabbanim, et la communauté, elle fait quoi? Elle est dans la synagogue, en train de hurler, de jeûner, de pleurer. Notre destin dépend, notre vie dépend du chien. Il faut qu'Hachem fasse que le chien, s'il se trompe en bien, on est content, mais s'il se trompe en mal, on est fichu. On amène le chien, il se met à tourner autour du truc, comme ça. Et tension énorme. Il hésite, tac, 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 à la fin, tchik, il sort dehors. Baruch HaShem. Demande Rav Lapian. Ok, ce chien-là a quand même sauvé 30 000 personnes. Il y avait 30 000 juifs dans la ville. Et sauvé de la mort certaine, la famille juive dans laquelle on a trouvé le corps. Il a du mérite. Quel mérite on lui donne à ce chien? Olam Haba? Un chien n'a pas Olam Haba. Le monde à venir. Bon, Olam Hazé, un bon nonos. Beaucoup de nonos. Non, pourquoi? C'est son boulot. Le chien, il a été éduqué, on l'a dompté pour respirer, dans la direction, il fait ce que cette nature qu'on lui a inculquée lui dicte. Donc, il ne lui revient aucun mérite. Et pourtant, il a quand même sauvé 30 000 personnes. Aïe, 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 quelqu'un se lève le matin, il se lave les mains, bien qu'on t'achache, il vient faire la prière, talit, féline, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et quart, chacun en fonction. Il n'est pas mieux qu'un chien, parce qu'il lit en récitant, il n'est pas là, il est dans ses affaires, tatati, tatata, machin, tout ça. Alors, il a droit à quoi? Olam Haba? Olam Hazé? Or, Dieu est bon. Tu as quand même perdu, entre guillemets, une heure de ta vie. Tu as été gentil, tu es venu réciter à la synagogue. Je dis une heure, parce que c'est le temps normal, d'accord? Il y en a qui font 35 minutes, prière déjà tout fini, avec même lundi, jeudi, avec supplication, etc. Une heure, c'est à peu près normal. T'as été gentil, t'as du mérite. Mais sincèrement, c'est ce que Dieu veut. La prière, elle va sur la couronne de Dieu. Il veut ta récitation à la noix, là, t'as bien prononcé. Encore, j'espère que t'as bien prononcé. Allez, admettons que t'as bien prononcé, mais t'étais pas là. T'étais pas là. C'est comme le chien qui fait son job. C'est ça l'histoire d'amour. En araméen, hein, on appelle la prière Rahamim. Rahamim, ça vaut ça vient de la racine Rahim. Rahim signifie aimer. Aimer. C'est l'histoire d'amour. Où on voit la mission de la prière dans la Torah? Vous servirez Hachem, mais kol levavchem v'chol nafshechem. Vous servirez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Les sages israélites, c'est quoi le travail du cœur? Avatem, vous travaillerez de tout votre cœur. Comment on travaille avec le cœur? C'est la prière. C'est un boulot. C'est un boulot. Pas qu'il faut se lever et venir à l'heure et réciter, ça c'est rien du tout. Prier. Hurler. Mordechai hurle à Hachem. Sakagdola Vemara. Yaakov, il supplie Hachem, sauve-moi de la main de mon frère et save. C'est ça nos spécialités, messieurs. On peut hurler après un coup de pied, on peut hurler avant le coup de pied. Qu'est-ce qui est mieux?
Avant,
ça fait éviter le coup de pied, toujours mieux. Mais il faut prier. Et ça, je vais pas de dire qu'il y a un travail à faire qui est possible. Devenir un grand lambda, t'étudie 13 heures, 14 heures par jour, on n'a pas les forces. Donner le faire du chesed non-stop, on a un ego qui est trop développé. Mais prier, je n'en parle de prier tous les jours. Allez, on va dire l'amida. L'amida, c'est l'essentiel de la prière, c'est devant Dieu. Le Messie Charim, il dit, il faut penser qu'on est devant Dieu et Dieu écoute nos paroles. Il dit, c'est un peu dur à s'habituer, mais après ça rentre comme ça, c'est évident. C'est un levier énorme. Hachem, c'est marqué, qui est comme notre Dieu qui écoute nos prières chaque fois qu'on l'appelle. Alors des fois, on me dit, oui, mon appel, des fois, c'est pas réalisé. Ok, mais il écoute les prières, comme je dis, la prière. Et déjà, il y a quelques siècles, les grands celles qui me posent la question, il y a des choses qu'on prie, on voit que ça ne réalise pas. Il dit, chaque prière va sur la couronne d'Hachem. La couronne d'Hachem. Les prières, les supplications, oui. Ibonou, c'est pas prière, Ibonou, c'est parler. Si durant Ibonou, tu pries Hachem, c'est très très bien. D'accord? Il y a parler Hachem et il y a supplier Hachem. D'accord? C'est deux choses différentes. La prière, c'est une supplication. Dans notre paracha, on voit, c'est chapitre 35, verset 1, c'est marqué qu'après que Yaakov arrive en terre d'Israël, il va à Bethel, il avait fait un neder, il a fait un vœu, que. La pierre sur laquelle il a dormi, au début de Paracha, il a vu une échelle, avec les anges qui montaient et qui descendaient, cette pierre, il en fera un autel et fera un sacrifice dessus. Il revient, et Dieu lui dit, vas-y, monte sur la montagne, fais là-bas l'autel et sacrifice, et lui dit, chev sham, reste assis là-bas. Le commentateur pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, reste assis là-bas? Tu vas, tu fais ton sacrifice, tu reviens. Ils disent comme ça, pour amener un sacrifice à Hachem, c'est pas tu vas t'aller à la montagne, t'aller à l'égorge. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Tu t'assieds, tu te concentres, tu te mets en situation. La Gemara dans Brachot dit que les chassidim rishonim, les pieux d'antan, se préparaient une heure avant la prière et une heure après la prière pour atterrir. Trois prières par jour, plus la prière, plus une heure, chaque prière, on va dire, pour ces chassidim, c'est au moins une heure, on va dire. Donc tu as 9 heures de prière. Toute la journée. Et leur Torah. Combien il reste pour étudier la Torah? Il dit parce qu'ils prient avec intention, leur Torah était bénie. Ils faisaient un peu, ils comprenaient vite, bonne mémoire, ils faisaient ce que les autres ne faisaient pas en 10 heures. Personne ne fait ça aujourd'hui. Alors, vous le conseiller à ses élèves, 5 minutes avant la prière, tu viens avec Talit Tefillin, tu te concentres maintenant sur ce que tu vas faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant une heure, ces gens-là, vous croyez? Jouer au ping-pong, regarder leur portable? Ils priaient Hachem. Aide-moi à te prier. Il se renforçait en amour d'Hachem, en crainte d'Hachem. Pensez, je vais maintenant m'adresser à celui qui m'a créé, dont toute ma vie dépend, qui est énorme. La prière, on dit, Hakel, Hagadol, le grand, Hagibor, le puissant, et Anora qui inspire la crainte. Un élève a demandé à Rav Steinman, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut penser quand on dit qu'il inspire la crainte? Il dit qu'il inspire la crainte. Combien? Crainte! Crainte! Faut y aller, hein, c'est pas facile. Nora. Moi, j'essaie d'imaginer comme ça, grand, puis encore plus grand, puis énorme, et c'est beaucoup plus grand. Et encore beaucoup. Non, on doit commencer à avoir de la crainte d'Hachem. Zichrona Livracha, de mémoire bénie, hein, je ne sais pas qui peut dire aujourd'hui, il a la crainte d'Hachem. Mais ça inspire la crainte. On doit se préparer à cette prière. Je ne pense pas que nous, à niveau nul que nous sommes, on peut faire 5 minutes. Mais 20 secondes. Veshev sham, reste assis, prépare-toi. Et à qui on dit ça? Yaakov Avinu. Avraham, Israël, Yaakov, c'est marqué Hem Hem Amerkava. Ils sont le chariot céleste. Ça veut dire que la Shrina est sur eux. Ils sont le chariot sur lequel la Shrina elle est posée, avec le roi David en quatrième roue. D'accord? Ils étaient, il n'y a pas une seconde, ils n'étaient pas en union totale avec Hachem. Et Hachem lui dit, malgré tout, Shev Sham, prépare-toi à faire un sacrifice bien comme il faut. Qu'est-ce qu'il a se préparer? Il est avec Hachem. Yaakov Avinu, le plus grand des trois patriarches. Alors nous, tu viens, brrr, après tu mets le Zohar, c'est le Talmud de Jérusalem. Il faut de remercier la tête qui sait se procéder tout seul à Modim. Parce que toi, dans la prière, on prie. Puis à Modim, il faut se prosterner, n'est-ce pas? Attends, toi, tu n'es pas là. Tu es en Olulu, tu es en vacances, tu es dans tes affaires, machin. Il dit, il faut remercier la tête qui sait se prosterner au bon moment. Parce que normalement, automatisme. Le petit chien qui va, qui respire. Tu as du mérite pour ça? Torah. Mais tu passes à côté des plus belles choses de la vie. Hachem t'écoute. Il prend ta prière, la messe sur sa couronne. On voit là la prière de Eitan, la prière de Shushan, la prière de Binyamin, chacun comme ça. Regarde. C'est à prier. Ce même Rav Lapian, qui a fait ses drachas sur le chien Aponovitch, quelqu'un raconte qu'il venait de temps en temps faire une sikhat moussar à Petar Tikva, là-bas une Shiva. Il venait de Rechassim, c'est dans le Galil. Alors il prenait un bus de Rechassim jusqu'à Haïfa, de Haïfa à Tel Aviv, et Tel Aviv pour Petar Tikva. Après il allait depuis la Tachana de Petar Tikva à pied jusqu'à la Yeshiva. En bus. La Yeshiva n'avait pas de quoi payer un taxi à l'époque. Quand ça allait un peu mieux, alors la Yeshiva lui payait un taxi depuis la Yeshiva jusqu'à la station de bus de Petar Tikva pour aller à Tel Aviv, Haïfa et Rechassim. Top, Baruch Hashem. Aujourd'hui, quelle la patience pour une chose pareille. Il y avait un jeune homme de la Yeshiva, un garçon, qui accompagnait le Rav depuis la Yeshiva jusqu'à la station de bus de Petar Tikva. Et là, on lui a dit, je te remercie beaucoup, parce que sans toi, je n'aurais pas su où aller. Et je vais te payer pour ça. Non, je suis encore d'arabe, je l'ai fait volontiers comme ça. Non, je vais pas te payer de l'argent, t'en fais pas. Je vais te payer, je vais donner maintenant un très bon conseil. C'est écrit dans la Gemara, en traité Brachot, que celui qui dit Shema Israël, lentement, de façon pointilleuse, ça veut dire qu'il prononce bien tous les mots, on lui refroidit l'enfer. Tu sais, nous tous, on ira un peu en enfer, un peu plus, un peu moins. C'est terrible. L'enfer, il y a sept niveaux. Le premier niveau, le plus haut, le plus frais, le feu là-bas est 60 fois plus fort que dans notre monde. Et après, le deuxième, 60 fois, c'est 3600. Puis après, 60 fois 3600, comme ça, jusqu'au le dernier, chez Mishmor. Et c'est très très chaud. Tout le monde te met l'air conditionné. C'est bien, non? Celui qui dit Kriyat Shema avec son pointilleuse prononce bien comme il faut, on lui refroidit l'enfer. C'est comme ça que je paye avec ce bon conseil que je te donne. On peut aussi faire ça, ça vaut la peine? Non, si on aura tous un peu en enfer, un peu beaucoup, un peu peu, je ne sais pas. Mais on peut prendre une minute de plus pour faire Kriyat Shema bien prononcé. C'est pas la fin du monde. Regarde qu'est-ce que tu gagnes. On va investir en prière. Rachel, on va devenir des balais de fila, des gens qui sont forts en prière, qui prennent leur temps. C'est une bagarre terrible. La bagarre, elle est contre quoi? La paresse. La paresse. On veut vite finir. Je vous garantis, une prière qui fait 5 minutes de plus, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est deux mondes. 5 minutes! 5 minutes! Tu fais quoi après ta prière? Moi, j'ai vu des gens religieux, mais bon, à l'un de moi, quoi. Une fois, quand j'étais un balchois nouveau, j'allais dans ces synagogues, je ne comprenais pas. Je voyais que le Shahar Sibour essayait de prononcer le plus rapidement possible qu'il est possible de dire par une bouche. Et après, il finissait. Et là, il va avec les copains, il rigole, il parle. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est encore, tu as un avion à prendre, je comprends. Tu fais des affaires, tu es Bill Gates, chaque seconde, c'est Time is money, c'est des milliards, je comprends. Tellement finir vite, à cause de quoi? Paresse, paresse. Et dans la prière, la Amida aussi paresse, se concentrer, chaque bracha, c'est une bataille. Je leur raconte ça, le Kafahim, il dit, chaque bracha de la Amida, c'est un diamant. Et qui veut nous le piquer, le Sarara, trac, tu penses à ci, tu penses à ça, il faut se concentrer, cette bataille, se concentrer, pas rater une bracha, c'est une bataille, je vais raconter sur moi-même. le Rabbi Shimon Bar Yochai, il prouve que si tu dis les trois premiers mots de la Amida, et tu dis Baruch Ata Hashem Magen Avraham, à la fin de la première bracha, tu es rendu quitte. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas rendu quitte. Parce qu'ils me disent, il faut avoir la kavana, penser ce qu'on dit dans la première bracha. Lui dit même pas, début et fin. Je peux dire que des fois, je fais une très bonne amida, j'arrive à me concentrer, mais quand je dis, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, je rate. Je pense à autre chose. Je ne comprends pas. Pendant, on va dire, 10 minutes de amida, tu penses tout ce qu'il faut. Rien que ces trois mots, tu as raté, qui sont les plus importants. Ça prouve par A plus B qu'il y a un Yetzerara qui veut te piquer ta tefila. Et tu prends l'endroit le plus important, que ça tu vas rater, tu as tout raté. J'en peux rater un autre moment. Non, là il me laisse encore, ça va aller, vas-y. C'est une bataille, une bataille. Ou l'ovdo bechol levavchem, le servir de tout votre corps. Dieu, il veut notre corps. Et l'ovdo, c'est un travail. Berat Hashem, on va travailler dans ce sens-là. Comme Yaakov Avinu, il a prié à Hashem durant cette paracha, il a été sauvé de Esav. On s'est prié, on sera sauvé de Esav. Vous savez que l'Amalek actuel, c'est l'Iran. D'accord? J'ai fait un cours là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières, Bézat Hachem. Il y a une dame d'Iran qui m'a écrit, parce que... Donc je cite des sources comme quoi, à la base, la Perse s'appelait pas Perse, elle s'appelait... à la base, l'Iran s'appelait pas Iran, ça s'appelait Perse. Et c'est Hitler qui leur a dit, appelez-vous maintenant Iran, parce que Iran, ça vient de la racine arienne. On a la même racine, nous les Allemands et vous. Arien, ça vient de Amalek, d'accord, de Esav. Une dame iranienne m'a écrit en français, vous avez raison, parce que l'Iran, ou la Perse, d'accord, dans le langage antique iranien, ou perse, se dit Veja Ariana. Veja, c'est le pays, Ariana. Ariana, c'est Arien, d'accord, comme ça. Donc, c'est clair qu'on est à la fin des temps, et comme Yaakov revient en Israël, c'est Esav qui veut le tuer, à la fin des temps, de nouveau, on a le même scénario qui revient, Esav voudra nous tuer, et c'est donc. L'Iran, il faut beaucoup, beaucoup prier. Dieu écoutera nos prières. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.